parce qu'on conçoit la vérité encore sur un plan trop objectif. Le texte peut dire une vérité sous une forme qui n'est pas vraie, justement. Mais du coup, c'est plus vrai. Encore une fois, si je dis qu'il pleut des hallebardes, c'est plus vrai que de dire qu'il tombe tant en ce moment, de millimètres d'eau au centimètre carré, parce que ça ne dit pas grand-chose aux gens. Tandis que si vous leur dites « il pleut des hallebardes », là, ils comprendront qu'il faut prendre un gros parapluie ou pas sortir du tout. Donc, vous voyez, en utilisant une formule qui n'est pas vraie, on est plus proche de la vérité du fait qu'on veut dire. On pourrait illustrer ces excès avec une analogie musicale. Par exemple, moi je trouve que si vous prenez Mendelssohn, hein, moi j'aime bien Mendelssohn, eh bien, les oratorios de Mendelssohn, eh bien, s'apparentent par leur récitatif plutôt à la période antérieure, hein, Mozart ou Haydn, tandis que les interludes orchestraux, eh bien, ont parfois l'ampleur de la musique romantique de Beethoven dans sa phase de maturité. Vous voyez, comment et tout ça dans la même œuvre. Donc, vous avez deux styles. Alors, vous pourriez vous dire, par exemple, les récitatifs ont été écrits à une époque par un tel, et ça a été orchestré par un autre plus tard. Ben non, c'est le même auteur qui a fait la même chose. Voilà. On pourrait dire la même chose quand vous écrivez vous-même, vous pouvez écrire des poèmes, et puis vous pouvez écrire un rapport. Regardez par exemple nos amis Claudel, comment il s'appelle, celui qui était secrétaire général du Quai d'Orsay en 40, là. Saint-Jean Perse, Alexis Léger. Des gens qui peuvent faire des rapports administratifs ou diplomatiques, et en même temps qui peuvent faire de la poésie. Et pourtant, vous avez un peu.
Sur la crise de Vannes.
Oui, oui. Donc vous avez des textes. Alors vous pouvez vous dire, c'est pas du tout le même auteur. Mais en fait, si, c'est le même auteur. Parce que le même auteur peut avoir plusieurs cordes à son arc. Même chose quand on utilise des. On peut très bien s'amuser à utiliser un style un peu châtié, et puis on peut s'amuser aussi à écrire dans un style à d'autres interlocuteurs, un style plus détendu, etc. Alors, si on applique tous les critères de la méthode historico-critique, on finira par distinguer plusieurs auteurs dans un seul, en fait. Et on dira, il y a plusieurs strates, il y a plusieurs auteurs, etc. Ben non, en fait, finalement, il n'y en a qu'un seul, mais qui est capable de faire plusieurs choses différentes. Et puis, on peut très bien... parfois, c'est vrai aussi, on a un style qui évolue, ou une écriture manuscrite, par exemple, qui évolue, connaissant l'écriture d'une époque, on arrive aussi à dater, par exemple, pour les textes de saint Thomas d'Aquin, on sait les dater à partir des encres utilisées. On sait par exemple qu'il était à telle période en France, telle période en Italie, et en fait on sait que la composition chimique des encres utilisées n'était pas la même. Et on voit parfois des textes où on change d'encre. D'autres pourraient dire aussi, oui, mais... qui nous empêche de penser qu'un dominicain de passage a apporté aussi un tonneau d'encre de France à Naples ou de Naples à... Donc, vous voyez, là encore, dès qu'on trouve quelque chose, on peut avoir plein d'hypothèses derrière qu'on n'arrivera jamais véritablement à démontrer. Donc, on procède toujours par hypothèse toujours falsifiable si... un vice de raisonnement est relevé, ou si un élément nouveau est découvert, vous savez, c'est les théories de la falsification développées par les logiciens du XXe siècle, hein, Popper, tous ces gens-là. Donc, ce qui est clair, c'est que la méthode historico-critique ne peut pas être la dernière méthode de l'exégèse, puisque méthodologiquement, elle met en parenthèse la foi. Donc, elle s'interdit a priori d'accéder au sens plénier de chacun des textes qu'elle étudie et du texte qu'est l'écriture, qu'est la Bible en elle-même. Alors, donc après avoir montré la valeur et les limites de la méthode historico-critique, le texte de la commission biblique va passer à d'autres approches possibles. Alors, d'abord, les nouvelles approches littéraires, qui sont développées dans le milieu du XXe siècle, dans d'autres domaines. Alors, tout d'abord, l'analyse dite rhétorique. C'est pas nouveau. En fait, c'est l'art de composer des discours persuasifs, ce qui suppose de recourir à un certain nombre d'artifices littéraires qui ont été étudiés depuis très longtemps par la rhétorique classique. Par exemple, les raisonnements a fortiori, on en trouve dans l'Épître aux Romains, la captatio benevolentiae, on voit ça aussi dans les Actes des Apôtres, quand saint Paul commence à parler aux Athéniens en disant qu'ils sont les plus religieux des hommes, qu'ils ont même un autel dédié aux dieux inconnus, etc. Donc ça, ce sont des procédés qui sont bien connus du monde romain et dont les auteurs du Nouveau Testament, notamment, font un grand usage. Mais il y a aussi des moyens spécifiques à la rhétorique biblique. Justement, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les parallélismes, soit antithétiques, donc qui s'opposent, soit progressifs, donc a fortiori, et qui abondent justement dans les écrits de saint Jean et de saint Paul. Les inclusions, donc les compositions concentriques dont je vous parlais tout à l'heure, qui mettent en relief un épisode, par exemple, dans les noces de Cana. Eh bien, finalement, qu'est-ce qui est au centre de toute l'histoire des noces de Cana? Eh bien, c'est un mot, les jarres d'eau. Et ça nous permet de comprendre que le texte doit être lu en clé baptismale. Et comme par hasard, tout l'évangile de saint Jean, c'est un évangile qui est centré sur les sacrements, en fait. Et vous voyez comment alors on cherche plein de... Alors, bien sûr, il y a des tas d'interprétations qui sont valables, mais la structure du texte nous pousse à prendre comme clé l'histoire de l'eau, hein, les eaux, l'eau. Alors, aussi, l'analyse rhétorique nous permet de relativiser le texte en précisant les conditions du discours. S'adresse-t-on à des adversaires pour les confondre, pour leur échapper par une pirouette, ou bien pour enseigner patiemment des disciples? Vous voyez, les textes ont plusieurs finalités. Par exemple, quand Jésus, on lui demande, dis-nous je ne sais plus quoi, et dire, donne-nous un signe, et puis il donne le signe de Jonas, ou des trucs comme ça, ou alors je ne le dirai pas non plus, des choses comme ça. Alors ça, c'est l'analyse rhétorique, donc c'est les figures de style, en gros. Hein. Alors, il y a aussi l'analyse narrative, qui s'est beaucoup développée dans les années 50-60, qui est une réflexion sur le récit. Au lieu d'y voir, comme dans la méthode historico-critique, une fenêtre sur le milieu d'origine, en se disant, débarrassons-nous du récit pour aller au fait, et essayons hypothétiquement de reconstruire le fait malgré le récit qui nous le livre, il s'agit d'étudier le texte pour lui-même, voir comment il fonctionne sur le lecteur actuel. Comme disent certains exégètes, en racontant le salut, donc c'est l'information qui est livrée, il raconte pour le salut. C'est-à-dire, qu'est-ce que va en faire le lecteur final? C'est l'aspect performatif. Comment le texte va avoir une influence sur moi? C'est certain que si on prend un texte qui... justement, j'étais en train de relire un de mes vieux sermons, et je disais l'histoire sur la joue gauche là. Si Jésus avait expliqué les choses d'une manière assez, professorale, le texte aurait été une information pour nous, on en aurait tiré quelque chose. Mais là, comme c'est d'une manière tellement provocante, fatalement, ça nous oblige à prendre le texte, à pas dire que c'est une petite histoire de rien qui nous concerne guère. Tandis que là, c'est, on se le prend plein dans la figure, si j'ose dire. Hein? Et donc, c'est là qu'on voit comment un texte peut avoir une influence. Et souvent, plus le texte est imagé, plus il est en parabole, plus il est performatif. L'exemple historique, deux exemples historiques, Saint Antoine du désert et Saint François d'Assise. L'histoire du... du jeune homme riche là dans qui est une parabole, hein, qui est pas une histoire. C'est une histoire réelle, oui. Qui se trouve dans l'Évangile, ça a fait de l'effet sur Saint Antoine d'abord, et puis Saint François. Aussi, comment le texte, avec ses outrances, d'une certaine manière, a un pouvoir sur le lecteur. Donc, le texte nous oblige à une prise de position. Il n'est pas purement documentaire. Hein, il vise une conversion. Alors, il y a encore... d'autres méthodes, comme par exemple l'analyse sémiologique, qui va souligner qu'un texte est un tout cohérent, qui obéit à une logique sous-jacente, dont l'auteur n'est pas toujours conscient. Et alors là, on s'approche, si vous voulez, un peu du structuralisme, c'est-à-dire que le texte a une logique interne. Un texte a une logique, en somme. Et il aboutit à... Alors, danger, évidemment, c'est de réduire tout à une structure, hein, et puis d'oublier autant celui qui l'a produit que celui qui doit le lire. Mais l'intérêt, c'est d'aborder le texte pour lui-même, comme un véritable objet, d'accéder au sens, même si on a une connaissance, disons, incomplète de son contexte, de son environnement, etc. Donc, d'une certaine manière, la méthode sémiologique, c'est l'anti-méthode historico-critique. Et vous voyez comment, pour nous, elle se complète, malgré tout. Hein, Et puis, il y a d'autres approches qui ont été fondées sur les sciences humaines. Par exemple, la sociologie permet d'avoir une meilleure connaissance du milieu historique et social où le texte a été élaboré, et par exemple la connaissance du milieu permet de savoir si un texte descriptif décrit réellement une situation existante ou s'il n'a pas plutôt une fonction prescriptive présentant comme réel quelque chose qui devrait l'être. Hein. Par exemple le jubilé, quand la Torah nous présente le jubilé, etc., avec la remise des dettes, toutes les semaines d'années, en fait, on a fini par se rendre compte que c'était prescriptif, mais c'était pas réel, que ça n'a jamais été réalisé vraiment. Et ça veut bien dire quand même que l'homme est léger et faible. Hein. Donc, autre exemple, la communauté de vie instaurée par le Christ avec ses apôtres a-t-elle eu ou non des antécédents? Par exemple encore, les paroles de Jésus au sujet de la croix qu'il faut porter, sont-elles des prédictions ou bien une allusion au moyen classique de mettre à mort ceux qui dérangent, autrement dit à l'instrument de supplice, alors en cours? On sait maintenant que c'était plutôt la deuxième chose. Jésus ne va pas parler Jésus, quand il parle de sa croix, il peut très bien... Alors, évidemment, comme il est fils de Dieu, il peut très bien savoir qu'il finira sur une croix. Et il peut le savoir d'autant plus que le moyen de supplice normal de l'époque, c'est bien ça. Et ça, on le sait. On le sait maintenant parce que il y a eu toutes sortes de révoltes juives qui avaient été réprimées de cette manière. Alors aussi, l'anthropologie culturelle peut nous permettre d'être attentifs à certaines choses, par exemple le langage, l'art, les vêtements, les ornements, les fêtes, les danses, les mythes, les légendes, tout ça, ce sont des éléments qu'on peut retrouver à travers la recherche anthropologique. Et ça débouche sur l'ethnographie, c'est-à-dire on peut dessiner le profil de l'homme méditerranéen de l'Antiquité, puis aussi des valeurs qui l'animent, par exemple l'honneur, le secret, la tradition, la fidélité, puis aussi la structure de sa famille, de sa parenté, la place de la femme, enfin toutes sortes de choses. Et ça permet d'établir des typologies qui permettent de faire ressortir la spécificité des personnages ou des institutions bibliques. Par exemple, on remarque qu'en Israël, il n'y a pas de sacerdoce féminin, alors que c'est la règle partout ailleurs, aussi bien dans le monde sémitique que dans le monde indo-européen. Alors, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Donc, mais ça, on se rend compte de cette particularité parce que on a étudié, on a fait des études ethnographiques et qui nous ont permis de nous rendre compte de ça. Pourquoi ? Parce que très souvent, le sacerdoce féminin est lié à la prostitution à cause des cultes de fécondité. Et donc, on voit que la religion biblique est une religion qui ne rentre pas dans cette perspective-là. Et donc, c'est un indice qu'elle vient d'ailleurs, vous voyez. C'est un indice pour sa dimension de révéler. Parce qu'elle, on voit la même chose avec les mythes de création, qui sont presque tous des mythes de mise en ordre du chaos. Or, précisément, quand la Genèse va utiliser des éléments empruntés au monde sumérien, mésopotamien, etc. Oui, voilà, etc. Elle va quand même en changer un élément fondamental, c'est elle dit création. Alors que c'est toujours dans tous les mythes la mise en ordre d'un chaos préexistant, là, mais parce qu'on n'a pas d'autre langage que le langage de la civilisation voisine un peu plus supérieure, on va utiliser son langage, mais avec un contenu, une idée, une forme qui est différente. Et là encore, c'est un indice que ça vient d'ailleurs. Voilà, que c'est pas la bête répétition d'un mythe emprunté à une religion voisine. Alors, il y a aussi d'autres approches psychologiques et même psychanalytiques qui sont fondées sur le recours constant des textes religieux au symbolisme. Or, le symbole exprime quelque chose de l'inconscient. On remarque que la Bible véhicule des valeurs qui permettent de structurer les pulsions et d'atteindre l'idéal du moi, alors que d'autres traditions religieuses ou philosophiques maintiennent le sujet dans un état d'immaturité, etc. Donc, là, très impressionnant de remarquer qu'aux yeux de beaucoup de psychanalystes, la Bible, milite en faveur d'un homme libre, debout, structuré, vous voyez, et non pas... et n'est pas justement une sorte de d'illusion ou de voilà ne maintient pas dans un état de suggestion comme Marx parlait de la religion comme d'un opium. Alors notamment c'est le cas de tout ce qui tourne autour du panthéisme. En refusant la transcendance et en ramenant tout à l'identité, eh bien le panthéisme s'empêche de penser l'altérité. Voyez, il maintient l'esprit au stade adolescent du narcissisme ce qui entraîne donc de redoutables conséquences sociales, la légitimité par exemple de l'homosexualité, le totalitarisme, la xénophobie, etc. Donc un certain nombre de réalités qui par exemple ont prospéré dans l'Empire romain et qui sont, alors que la Bible justement, à cause de sa structure, enfin de la Bible chrétienne, à cause de la Trinité qui est le fondement de tout, eh bien, elle intègre l'altérité, la distinction déjà dans l'Ancien Testament entre Dieu et la création. Donc là aussi, l'altérité est soulignée. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut se construire dans, vous voyez, non pas dans le reflet de soi, dans la réduction à soi, au même, mais dans le jeu avec l'autre. Hein. Donc, d'une certaine manière, là aussi, les sciences humaines peuvent dire quelque chose de la vérité anthropologique profonde que porte la Bible. Alors que d'autres traditions religieuses sont plutôt infantilisantes, caricaturent en fait l'être humain dans sa vraie complexité. Et puis, je regarde l'heure quand même. Oh bon, on va s'arrêter là. Et puis on verra. La fois prochaine, les approches fondées sur la tradition. Alors, je ne sais pas, je dis la semaine prochaine.
Non.
C'est... Ah ben non, la semaine prochaine, je ne suis pas là, justement. Je serai en...
Après,
c'est l'ascension. À Wiegratsbad. Ah oui, la semaine... après c'est l'ascension.
Donc, ça vous sauve.
Oui, vous avez raison. Donc, la fois prochaine, ça sera le 6 juin.
6 juin, oui.
Voilà, la fête de Saint-Norbert. Et, alors, je pense qu'il faudrait peut-être faire aussi un dîner final.
Oui, certainement.
Ça pourrait être le 13, alors.
Très bien.
Ou alors le 27.
Oh non, le 13.
Le 13.
Le 27, on n'est pas là.
Ça sera le 13, alors, oui.
On n'est pas là, le 13.